France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Proust, La Fontaine, Molière, Ninon de l'Enclos, Madame de Lafayette, mort en 2006, Roger Duchesne aura signé moult biographies, reconnues comme étant des plus passionnantes et pertinentes. De sa vie d'universitaire, d'historien et d'écrivain, on retiendra particulièrement qu'il aura passé de très nombreuses années en compagnie de Madame de Sévigné, en lui consacrant de nombreux ouvrages et publications et en dirigeant l'édition de sa correspondance dans La Pléiade. En 1982, Roger Duchesne publiait « Madame de Sévigné ou la chance d'être femme », une biographie qui lui valait non seulement d'être en septembre l'invité d'un numéro d'Apostrophe de Bernard Pivot auquel participait Pierre Cipriot, mais aussi d'être avant cela en juillet sur France Culture l'invité du même Pierre Cipriot dans « Les lundis de l'Histoire ». Une émission de radio qui offrait à Roger Duchesne plus de temps que la télévision pour dire pourquoi on pouvait se passionner pour la vie et l'œuvre de Madame de Sévigné et lire encore avec joie sa correspondance en 1982. Quant à lui, en leur faisant entendre des lectures des lettres de la marquise par Sylvia Montfort, Pierre Cipriot pouvait recommander à ses auditeurs d'emporter en vacances une biographie qu'il jugeait captivante. Les lundis de l'histoire, Madame de Sévigné ou La chance d'être femme de Roger Duchesne. Première diffusion le 5 juillet 1982 sur France Culture.
Après la publication des lettres de Madame de Sévigné dans la bibliothèque de la Pléiade, Roger Duchesne continue son effort pour présenter Madame de Sévigné. Dans Madame de Sévigné, ou la chance d'être femme, votre esprit saute aux yeux, disait Madame de Lafayette à Madame de Sévigné. C'est, je crois, ce qu'on peut dire de ce livre. Il est pétillant d'esprit, d'imagination, de fantaisie. Et en plus, j'ajouterais que vous ouvrez, Roger Duchesne, quantité de sujets que vous avez d'ailleurs abordé auparavant, puisque votre bibliographie sur Madame de Sévigné est considérable. Vous travaillez sur elle depuis combien de temps ?
J'ai commencé en 1960, à l'occasion du thèse de doctorat, et je crois que le cheminement a été du savoir le plus aride, j'ai parti des actes notariés, pour arriver à ce livre que je me suis efforcé de lecture facile et tourné vers le grand public.
En somme, comme c'est un auteur extrêmement vivant, amusant même,
oui,
et en même temps pathétique,
les
douloureux
deux,
par oui, moments, toujours elle a déchiré.
Elle a une histoire.
Un personnage de crise,
oui.
C'est un merveilleux personnage de biographie.
C'est un peu, oui, je crois qu'au fond c'est une vie, c'est un roman sa vie, c'est pas un roman dans le sens qu'elle n'a pas épousé un roi, elle. Mais enfin, c'est le roman d'une femme du XVIIe siècle et un roman finalement beaucoup plus commun que celui de ceux qui arrivent trop bien.
Oui, et le roman d'une femme qui, encore une fois, a été partagée entre divers terrains, à la fois Rustaud et tout proche de la ville, de Paris, du Marais, et en même temps tout proche de la cour.
Partagée, et de la campagne.
Et de la campagne, partagée entre tout ça, et même les eaux thermales.
Oui.
Partagée donc entre ces divers lieux, qui a vécu toutes les crises de son siècle, plus intensément qu'on ne l'a dit. Et je voudrais tout simplement citer quelques articles de vous qui prouvent la diversité de vos études sur Madame de Sévigné et l'intérêt, parce que c'est au fond... Il y a eu les travaux de Gérard Gailly sur les lettres de Madame de Sévigné, mais je crois que c'est la première fois que des sujets que vous abordez dans cette biographie ont été traités. Par exemple, bon, Madame de Sévigné, la lettre d'amour, vous situez Madame de Sévigné dans la lettre d'amour au XVIIe siècle. Vous avez écrit « Une reconnaissance excessive, Madame de Sévigné et son bien bon ». Qu'est-ce que c'est le bien bon ?
C'est son oncle, c'est celui qui l'a tiré de l'abîme après la mort de son mari, et c'est lui qui a géré sa fortune. C'est tout cet aspect très, très important. On imagine toujours Madame de Sévigné une femme sans soucis. Or, elle gère un domaine immense, et par conséquent, elle a les soucis de qui a plus d'un milliard à gérer, finalement.
Oui, et elle finit sa vie criblée de dettes, et elle économise sous par sous essayer d'éponger cette dette.
Parce qu'elle s'est dépouillée pour ses enfants, c'est l'aspect maternel.
Oui. Alors, La Veuve au XVIIe siècle, qui est apparue à Tübingen en 1978, ça vous nous donnez une étude très extraordinaire. On comprend la fable de La Fontaine.
Oui. Oui, et puis alors, je l'ai retrouvé, enfin, c'était imprimé, j'ai pas eu grand mérite, mais j'ai mis en rapport, le veuvage de Madame de Sévigné et les conseils que Jeanne de Chantal, qui est la grand-mère de Madame de Sévigné, avait écrit pour une autre petite fille, qui s'appelait Françoise de Rabutin aussi, Françoise de Toulongeon, qui également était veuve, et Françoise de Chantal avait dressé en somme quel devait être le style de vie de la veuve.
C'est-à-dire une sorte de vie sacrifiée, mais en même temps, précisément parce que cette vie sacrifiée, c'est une vie probise et c'est une vie de rédemption pour les êtres qui l'entourent.
Oui, alors Madame de Sévigné a accepté une partie du programme, mais pas le programme tout entier.
Alors vous avez écrit sur Madame de Sévigné le spectacle, c'est très important aussi parce que d'abord ça nous fait entrer dans les coulisses du théâtre à Paris et à la cour. Oui. Et puis d'autre part, il est évident que dans les lettres, elle a souvent parlé de spectacles qu'elle n'a pas vus.
C'est ça. Ça fait apparaître les trous, n'est-ce pas ? Ma grande surprise, Madame de Sévigné n'était pas la première d'Andromaque, n'était pas la première des maladies imaginaires. Et même si elle en parle, c'est en général, elle parle des pièces beaucoup plus pour les avoir lues que pour les avoir vues.
Alors, vous avez publié dans la Revue d'Histoire littéraire de la France « Réalité vécue et art épistolaire », le statut particulier de la lettre.
Oui.
Alors là, votre grande découverte, c'est tout simplement une évidence, c'est de montrer que les lettres de Madame de Grignan précédaient les lettres de Madame de Sévigné.
Oui, ça c'est une des choses que j'ai dites dans la biographie, parce que je n'avais pas fait attention à ce petit détail, que la première lettre qui a été échangée entre les deux femmes, c'est Madame de Grignan qui l'a écrite. C'est-à-dire que le jour du départ, Madame de Sévigné s'est enfermée dans sa douleur, dans son chagrin, dans ses larmes et dans le couvent de la Visitation, alors que le soir, à la première étape, Madame de Grignan a écrit à sa mère. Et finalement, la première lettre de Madame de Sévigné à sa fille, c'est une réponse.
Oui.
Alors je crois que c'est magnifique, parce que cette Madame de Grignan qu'on a si souvent calomniée en la disant sèche, etc., eh bien, tout de même, on voit que le premier jour, c'est elle qui a écrit, malgré la fatigue d'un voyage, à sa mère qui se contentait de pleurer, si j'ose dire.
Oui, et on voit en même temps que ces lettres étaient non pas des lettres faites pour être lues en public, éventuellement elles le seront quand elles seront publiées, mais des lettres intimes entre deux femmes.
Absolument.
Qui se racontaient tout. Alors, Madame de Sévigné et la gestion de ses biens bourguignons, ça a paru dans les Annales de Bourgogne en 65, partage des biens et affections.
Oui, alors ça, partage des biens et partage des affections, c'est un article que j'ai fait dans les Annales d'affectivité d'Aix et auquel j'attribue beaucoup d'importance, parce que au fond, c'est par les chiffres qu'on arrive quelquefois à des preuves. Et j'ai pu montrer par cet article que Madame de Sévigné n'avait jamais désavantagé son fils au profit de sa fille, comme on le trouve écrit à peu près partout. Alors, chiffres en main, en faisant l'histoire de la fortune de Madame de Sévigné, de la part de Charles et de la part de sa fille, on s'aperçoit qu'il y a pu quelquefois avoir des tensions entre le frère et la sœur pour des raisons d'argent, ce qui arrive dans toutes les familles, mais que Madame de Sévigné a toujours été extrêmement juste entre ses deux enfants.
Toujours en même temps. C'est-à-dire qu'elle a d'abord avantagé le fils et ensuite la fille.
D'abord la fille et ensuite le fils. Oui. C'est-à-dire qu'elle a marié son fils en 1600, elle a marié sa fille en 1669 et son fils en 1683. Alors il y a donc eu des réajustements à faire parce que l'évolution économique avait été telle que les biens de Madame de Sévigné s'étaient dévalués.
Alors disons que Madame de Sévigné est née en 1626, qu'elle est morte à 70 ans en 1696, après une maladie qu'elle a admirablement surmontée, contre laquelle elle a combattu. Et finalement, on voit dans votre livre cette femme qui a connu des violences, des passions, des crises, avoir une vieillesse finalement heureuse, comme elle a eu une jeunesse heureuse. Maintenant, alors, je voudrais vous soumettre un petit peu mais avant de dire tout cela, j'aimerais, Roger Duchesne, vous soumettre un petit feu roulant de questions que j'emprunte tout simplement à La Bruyère pour situer Madame de Sévigné et surtout situer la femme au XVIIe siècle, puisque les femmes, c'est bien connu, depuis Simone de Beauvoir, d'autres sont ce que la société les fait être. Alors, Première question, La Bruyère, une femme galante veut qu'on l'aime, il suffit à une coquette d'être trouvée aimable et de passer pour belle. Madame de Sévigné est-elle galante, est-elle coquette ?
Les deux, elle veut qu'on l'aime, elle veut être aimée, elle est aimable, mais elle est une coquette d'esprit, c'est-à-dire que ce qu'elle aime, c'est qu'on aime son esprit, c'est qu'on aime sa façon d'être dans la vie, sa vivacité. Elle n'aime pas qu'on ne l'aime pas, je dirais.
Oui, alors autre chose qui est très important, parce que c'est tout le côté trésorier qu'il y a chez la femme, parce que tout le côté à la fois habitude, trésorier, parce qu'il y a un instinct de nidification chez la femme que La Bruyère a très bien dégagé. Quelques femmes ont dans le cours de leur vie un double engagement à soutenir, également difficile à rompre et à dissimuler. Il ne manque à l'un que le contrat et à l'autre que le cœur. De quel côté, Madame de Sévigné ?
Elle n'a certainement pas manqué de cœur, je crois que... et le contrat non plus. Je crois finalement qu'au fond, ces distinctions sont un petit peu artificielles, dans son cas.
Un portrait de femme, plutôt de plusieurs femmes par La Bruyère, et là je vous demanderai également de ranger Madame de Sévigné dans une de ces catégories. « Si j'épouse Herma, s'écrit La Bruyère, une femme avare, elle ne me ruinera point. Si une joueuse, elle pourra s'enrichir. Si une savante, elle saura m'instruire. Si une prude, elle ne sera point emportée. Si une emportée, elle exercera ma patience. Si une coquette, elle voudra me plaire. Si une galante, elle le sera peut-être jusqu'à m'aimer. Si une dévote, répondez, Herma, ce que dois-je attendre de celle qui veut tromper Dieu et qui se trompe elle-même ?
Ce sont de très belles distinctions. Alors, pour Madame de Sévigné, on pourrait essayer de reprendre certaines des catégories. Avare, par exemple, eh bien, son cousin Bussy l'a accusé d'avarice parce qu'elle a refusé de lui prêter de l'argent dans une circonstance où il avait besoin. Mais dans mon livre, j'ai essayé justement de montrer que les propres difficultés financières de Madame de Sévigné l'obligeaient à ce moment-là à ménager son bien. Alors, d'un point de vue, si vous voulez, aristocratique, elle est avare parce qu'elle met la bonne gestion d'une fortune au-dessus de certaines considérations de gloire. D'un point de vue bourgeois, elle est sage parce qu'elle ménage le patrimoine de ses enfants et donc elle est une bonne mère. Alors, dévote.
Savante.
Savante.
Vous parlez d'une écolière de 30 ans.
Oui, savante. Madame de Sévigné, femme savante, oui et non. Je veux dire par là qu'elle est cultivée, elle a beaucoup appris. Elle a beaucoup appris dans ce que j'ai appelé un anachronisme au moyen d'une éducation permanente. Enfin, grâce à son entourage, elle a connu ce que j'ai appelé
une éducation permanente. Et jusqu'à la fin de sa vie, car vous lui donnez la liste des gens qu'elle recevait à Carnavalet, qui est éblouissante.
Bien entendu, elle a toujours, depuis sa jeunesse, fréquenté des gens qui étaient des savants et des gens du monde. Ménage, le plus savant des pédants et le plus pédant des savants, c'est-à-dire quelqu'un qui possédait le savoir mais qui avait en même temps l'habileté de le faire partager sans ennui et sans pesanteur. Donc, elle est savante, si l'on se place de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, elle n'étale jamais son savoir.
Oui.
Elle est l'anti-précieuse dans la mesure où on ne la trouve jamais un livre à la main. Il y a une scène où elle est au rocher.
D'ailleurs, elle n'aime pas le genre ennuyeux, ça c'est manifeste.
Ah, absolument,
ni dans son style.
Tous les genres sauf le genre ennuyeux, bien entendu. Et elle ne se targue jamais de ses lectures. Mais elle aime entendre parler de choses intellectuelles. Elle dit, il y a une métaphore qui me paraît assez intéressante, elle dit qu'elle veut apprendre certains jeux pour voir jouer. Et elle l'applique aux discussions cartésiennes. Elle veut savoir un peu de philosophie cartésienne dans les continuateurs de Descartes, de manière à pouvoir comprendre les discussions entre son fils et Corbinelli. N'est-ce pas ? Elle aime participer aux discussions silencieusement, faire le plaisir de comprendre ce dont on parle autour d'elle, ce qui est à la fois conforme à la situation féminine qui doit être en retrait par rapport à l'ostentation masculine, et ce qui est conforme tout de même au goût intellectuel, au plaisir de savoir. Alors quant à joueuse, alors non, absolument pas. L'anecdote que je viens de vous dire le montre. Elle déteste le jeu parce que le jeu, au fond, ça prive de la conversation.
Oui, il faut dire que le jeu était fort répandu. Si on ouvre un livre de les liaisons dangereuses, qui est évidemment du XVIIIe siècle, au XVIIe, c'est pareil, ils passent leur temps, leur nuit, à jouer.
Oui.
Maintenant, alors, j'en veux revenir sur le mot « savante » tel que vous l'avez employé. Il y a un mot extraordinaire. La vieille ne voulait pas mourir. Elle en apprenait tous les jours.
Oui.
Je crois que ça la définirait assez bien tel que vous nous la montrez dans sa curiosité qui, encore une fois, est très diverse, très aussi bien tournée vers la spiritualité que vers la physique mécaniste, que vers Descartes, et surtout les auteurs latins.
Elle connaît suffisamment l'italien pour lire Virgile dans la traduction italienne, mais pas pour le lire dans la majesté du latin. Et elle a auprès d'elle un certain Lamus, qui est un bâtard de son oncle Coulanges, qui sert de précepteur à Mademoiselle de Sévigné, à la future Madame de Grignan, et avec lequel elle partage la lecture des anciens, mais toujours en traduction.
Pour en finir avec ces textes de La Bruyère sur les femmes que je cite pour, encore une fois, situer Madame de Sévigné dans son époque et dans les modes de son temps, il y a toujours quelque chose qui revient chez La Bruyère, c'est la dévote, le fait que la dévote est à la fois la prude, la sage, et en même temps, une formule qui revient tout le temps à l'époque, et une femme était ravie qu'on dise ça d'elle, on l'aurait prise pour une vestale. Les vestales, gardiennes du feu, chastes à tout prix, et qui ne vivaient que de vie spirituelle. Au fond, Madame de Sévigné est exactement le contraire de la femme type de son temps, ou de la femme contrainte. Il y a toujours, et votre livre respire ça, l'air libre et naturel.
Oui, la conduite dégingandée, comme elle le dit, c'est un joli mot, et le libertinage, elle parle de son libertinage, mais il faut s'entendre, elle veut dire par là qu'elle a une conduite libre, libre allure, bride abattue, ce sont les mots qui reviennent sans cesse sous sa plume. Et je crois que, évidemment, c'est une vie, n'est-ce pas, c'est une biographie, et qu'il faut se garder de mettre une étiquette qui soit valable sur l'ensemble de la vie de Madame de Sévigné. Elle a eu le temps de sa jeunesse, où avec son coquin de mari, Norit Sévigné, je crois qu'ils ont mené tous les deux une vie finalement assez joyeuse, et c'est le moment où finalement on lui ferme la porte de tel ou tel salon pour être, dit Loret, un peu trop guillerette. Alors cette épithète guillerette ne va pas du tout avec Vestal ni avec dévote. Il est certain en revanche qu'au moment de sa mort, cette mort se fait dans l'austérité la plus totale, mort dépouillée, mort chrétienne, mort janséniste même, mort délicieuse, pour appliquer à la mort de Madame de Sévigné l'épithète qu'elle avait accordée à un de ses oncles morts quelques années avant. Donc, selon la période à laquelle nous nous plaçons, nous avons affaire à plusieurs Madame de Sévigné. Et c'est un des intérêts, je crois, de cette biographie que de montrer qu'il y a eu une évolution. Et je crois que cette évolution, on la retrouve dans ses lectures. Car la lecture chez Madame de Sévigné n'est jamais un acte purement intellectuel et gratuit. Elle lit ce dont elle a besoin pour nourrir sa vie de femme, sa vie intellectuelle et sa vie sentimentale. Si elle a tant lu d'auteurs jansénistes, si elle a tant lu de Nicole, puis ensuite tant de Saint-Augustin dans les traductions de Port-Royal, c'est que ces auteurs-là apportaient une réponse à sa question. Comment est-il possible qu'il y ait une Madame de Sévigné au monde qui aime tant sa fille et qui en soit séparée? Eh bien, c'est parce que la Providence l'a voulu, c'est parce que cette épreuve est quelque chose qui est voulu par Dieu, et peut-être le signe de la grâce qu'il lui donnera de mourir chrétiennement et d'aller au ciel, car c'est une chrétienne.
Et on rejoignait là l'idée que sa grand-tante avait de la veuve.
Absolument.
Oui. Reprenons rapidement cette biographie telle que vous nous la racontez. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut rappeler, qui sont dans toutes les mémoires, mais qu'il faut rappeler. Mais il y a aussi des faits très nouveaux que vous nous apportez, en particulier sur les finances, sur l'intérêt de Madame de Sévigné pour son fils, oui. Combien elle s'est entremise pour lui, combien elle a voulu que ce fils mène une vie qui soit un peu la sienne, enfin qu'elle s'est identifiée à ce fils encore plus qu'à sa fille. Et vous nous apportez également des indications extrêmement précises sur des parties de sa vie dont on parle assez peu, parce qu'habituellement on fait une biographie de Madame de Sévigné en la prenant à partir du moment où elle envoie ses lettres. Donc on a son journal, si l'on peut dire, au jour le jour. Mais la partie qui est en dehors de ces lettres, qui commence après le départ de Madame de Grignan, finalement était souvent restée lettre morte.
Bien sûr. Madame Sévigné commence à écrire à Madame de Grignan. La première lettre à Madame de Grignan, elle a 45 ans. Donc l'œuvre écrite de Madame de Sévigné commence quand Madame de Sévigné a 45 ans. Et il y a à peu près 100 pages dans la Pléiade avant le début de cette correspondance. Donc la difficulté du travail était effectivement de faire une biographie équilibrée. Et je suis assez content parce qu'il y a exactement le même nombre de chapitres dans mon livre pour la partie qui concerne Madame de Sévigné jusqu'à 45 ans que de 45 ans à sa mort. Ça demandait donc un travail. Il y avait pour se faire cette biographie une espèce de double travail. D'une part, pour la première partie, reconstituer l'existence d'une femme depuis sa naissance, son éducation, son mariage, son veuvage, l'éducation de ses enfants, etc., à partir de documents relativement nombreux mais très dispersés, Et puis alors, à partir de 45 ans, il y avait au contraire les trois volumes de la Pléiade dont il fallait tirer simplement l'essentiel pour écrire les lignes de force de cette biographie, alors qu'on avait sa vie au jour le jour, ce qu'elle mangeait, où elle allait, de quoi finalement faire une biographie en 5 tomes.
Je tiens à insister sur la perfection du travail que vous avez fait pour la bibliothèque de la Pléiade, où il y a à peu près la moitié occupée par des notes ou par des lettres de réponse, ce qui est à la fois un portrait de Madame de Sévigné, une notice extrêmement précise sur le XVIIe siècle, et en même temps le monde dans lequel elle a vécu. Bon, revenons à votre livre. Deux courants dans la famille, ce qui arrive souvent chez les écrivains, chez Proust par exemple, c'est évident, c'est chez Madame de Sévigné aussi, mais on en est moins convaincu. Alors une famille de reîtres d'un côté, de reîtres nobles, et d'un autre côté une famille de nouveaux riches.
C'est ça, il y a le côté Rabutin et le côté Coulanges, le côté de ceux qui ont su ce que c'est que la fin, dit Bussy méchamment à propos des Coulanges, il exagère. Mais enfin ce sont des financiers, ce sont de nouveaux riches, ce sont de nouveaux nobles, c'est aussi une famille en pleine ascension sociale. Alors que les Rabutins, dont Madame de Sévigné est le dernier représentant de la branche aînée, mais c'est une fille, donc c'est la fin de la branche aînée, Bussy étant le dernier représentant d'une branche cadette.
Alors le drame de cette jeunesse, bon, elle perd ses parents très jeunes, et néanmoins, vous insistez sur le fait, vous reprenez d'ailleurs ses propos, qu'elle a été heureuse.
Oui, elle le dit elle-même. Jamais nous n'avons eu une jeunesse heureuse, jamais je n'ai tant ri. Enfin, le rire fait partie de Madame de Sévigné, au même titre que les larmes et que le sacrifice. Et ce rire est même, je crois, fondamental. C'est quelqu'un qui aime vivre, Madame de Sévigné. Elle aime la vie.
Elle aime tellement la vie qu'elle a horreur de la mort et que la mort gâche la vie.
C'est bien sûr. Il n'y aura que, je crois, les 6 derniers mois où elle perdra ce goût de vivre et, au fond, elle mourra parce qu'elle est à Grignan, qu'il fait froid, qu'elle aura une congestion pulmonaire ou quelque chose d'analogue. Mais elle mourra aussi parce qu'elle aura, elle aura perdu le goût de vivre en voyant sa fille toujours malade.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation que la mort gâche la vie? Parce qu'au fond, ce n'est pas courant au XVIIe siècle, cette idée-là.
Je ne sais pas si c'est pas courant.
Il y a un devoir de résignation
siècle.
Qu'on prêchait dans l'éducation très jeune. Un devoir de résignation d'abord aux misères de la maladie qui souvent frappait très jeune.
Oui.
Et ensuite résignation devant la vieillesse et la mort.
Oui, mais le point de vue de l'insigne est un petit peu différent et c'est pourquoi je dirais que c'est tout de même assez courant. La mort gâche la vie en ce sens qu'on ne sait pas si à l'heure de la mort on sera bien ou mal avec Dieu. Autrement dit, si on sera en état de grâce ou non. C'est le salut, c'est le problème d'être sauvé, de ne pas être damné, et par conséquent d'avoir une vie conforme à l'idéal religieux que l'on professe, qui fait que c'est si difficile de mener sa vie. Car, comme dit Mme de Sévigné, la sotte vie que je mène me paraît si naturelle que, ma foi, elle ne peut pas s'empêcher d'aimer sa fille plus qu'elle devrait, ne pas s'empêcher de trouver du plaisir à la comédie, elle ne peut pas s'empêcher d'aimer la vie. Et c'est parce qu'elle aime trop la vie qu'elle craint de ne pas bien se préparer à la mort. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'elle redoute la mort.
Et vous citez une phrase de Jeanne de Chantal, qui a joué finalement un assez grand rôle dans sa vie, et qui m'a rappelé, c'est assez curieux, la prière que les enfants Léopardi devaient faire. Il y avait 7 enfants Léopardi, se réunissaient, c'était très impressionnant, le soir avec le père et la mère, et tout le monde priait Dieu de partir le plus vite possible, le rejoindre. C'est-à-dire que les enfants qui avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, devaient prier Dieu d'aller le plus tôt possible avec les anges. Enfin, c'est à la fois affreux et attendrissant. Alors le cœur m'attendrit fort quand je la regarde, écrit donc Jeanne de Chantal, quand je la regarde dans ce dépouillement de père et de mère, cette séparation de son père et de sa mère dont elle est orpheline, mais je la mets de bon cœur entre les mains de notre bon Dieu et de sa très sainte mère.
C'est ça. Elle m'a enseigné la même chose pour son petit-fils, le Provence. Donnez-le, il est au siège de Philippsbourg, il est donc dans le danger, il a 17 ans, et elle dit à sa fille, donnez-le à Dieu afin qu'il vous le conserve. Tout de même, il y a une nuance, hein. C'est pas donnez-le à Dieu afin qu'il l'emmène dans son paradis, mais c'est donnez-le à Dieu afin qu'il vous le conserve.
Oui. Alors je vous cite Roger Duchesne dans cette biographie de Madame de Sévigné. On aurait tort, écrivez-vous, de sous-estimer l'importance et l'efficacité de ces consolations de la mort chrétienne. Tous ses parents qu'elle perdait sur la terre, l'enfant pensait les retrouver au ciel et croyait qu'il la regardait vivre, intercédant constamment en sa faveur comme ses amis qui, à la cour, se chargent d'intervenir auprès du roi et d'en obtenir des grâces. Ça nous paraît très loin de nous, mais il y a 50 ans, on croyait encore que la Sainte Vierge, les morts, priaient pour les vivants.
Je crois que l'intercession des morts, ça fait partie de l'idée de la communauté de l'Église et que c'est une idée qui n'est pas hérétique.
Oui. Ah non, je ne dis pas du tout que ce soit hérétique. Non, c'est une idée
sur laquelle on n'insiste plus.
On n'imagine plus maintenant parce qu'en effet, elle n'est plus dans notre mentalité. Alors, Coulanges, le rôle de Coulanges dans cette éducation.
Les Coulanges, je crois, les il faudrait Coulanges. Dire, puisque, au fond, lorsque Mme de Sévigné perd son père, puis sa mère, c'est d'abord son grand-père Coulanges qui la recueille, puis lorsque son grand-père Coulanges meurt, très peu de temps après, c'est finalement son oncle Coulanges, l'aîné de la famille, Philippe, le financier, celui qui a fait fortune, celui dont Bussy fait la satire, et plus tard, ce sera un autre de ses oncles, l'abbé de Coulanges, qui sera son, nous l'avons dit, qui sera le gestionnaire de sa fortune. Et puis, il faudrait ajouter qu'autour autour d'elle, quand elle est petite fille, il y a justement cinq ou six oncles qui sont des hommes très jeunes, ou des tantes, qui sont des femmes très jeunes. Le décalage des générations fait qu'au fond, Mme Sévigné perd sa mère, sa grand-mère, mais qu'elle est entourée de jeunes oncles et tantes qui sont pour elle autant de mères ou de frères, je ne sais comment dire. Mais l'important pour un enfant, c'est d'être aimé, c'est d'être entouré. Et je crois que Mme de Sévigné a eu cet amour, cette affection, cet entourage, et donc qu'elle ne s'est pas sentie véritablement orpheline.
Alors elle se marie en 1644, ce qui est quand même assez jeune, 18
oui,
ans,
oui.
Et elle se marie dans la joie, ce qui n'était pas non plus très courant à l'époque, d'abord parce que les mariages se faisaient souvent en dehors de filles, on le voit très bien chez Molière,
oui.
Et puis aussi parce que pour la femme, se marier... Bon, c'était être arraché à un milieu très préservé dans lequel on l'éduquait, puisque l'éducation des filles était impitoyable. Il suffit de lire Fénelon pour se rendre
pas
compte.
Celle de Madame de Sévigné, pas celle de Mme de Sévigné, justement.
Pour leur donner les cages à serins, pour les consoler, leur montrer ce qu'était la vie.
Oui.
C'est tout ce qu'on leur
seulement,
concédait.
C'était pas le cas de Madame de Sévigné, justement, parce que Jeanne de Chantal s'inquiète un peu de cette éducation trop libérale. On fait toutes ces petites volontés, dit Sainte-Jeanne de Chantal, et elle s'en inquiète. Chez les Coulanges, Madame de Sévigné a connu une éducation extrêmement libre et libérale.
Alors autant les hommes étaient livrés vraiment. On peut dire aux vices très jeunes, c'est ce qu'on appelait l'éducation de prince, parce qu'il fallait qu'ils jettent leur gourme, autant les filles étaient préservées, et le mariage prenait l'allure d'une sorte d'enlèvement, de rapt, et en même temps, il y avait aussi la menace des couches, et beaucoup de femmes mouraient en couche, beaucoup d'enfants mouraient en naissant, c'était donc pas une histoire très simple de se marier à l'époque, et une femme souvent abordait ça comme une épreuve, chez elle, non.
Non, j'ai l'impression... d'abord, il faut bien dire que cet Henri de Sévigné était un mauvais sujet, un peu foufou, mais très beau, très sympathique dans ses côtés excessifs. Puis, il avait des points communs avec elle.
Je vais lire votre texte. Il avait, tout comme elle, été orphelin de très bonne heure, vous écrivez-vous, Roger Duchesne. Sa mère était morte l'année même de sa naissance, en novembre 1623, quand il avait 8 mois. Puis, il avait perdu son père à 12 ans, en janvier 1635, et quelques mois après, sa grand-mère maternelle. Marie de Sévigné, dame d'Olivet. À la différence de son épouse, il n'avait pas trouvé de famille de remplacement. Son père s'était remarié en avril 1629 avec une famille bretonne, etc.
Oui. Et par conséquent, Mme Sévigné peut peut-être lui apporter cette affection dont, au fond, il a manqué dans sa jeunesse. Et je crois que c'est une des choses sur lesquelles j'insiste dans mon livre, c'est que ce mariage n'a pas été un mariage malheureux.
Oui.
Bon, il est certain que Henri de Sévigné est mort en duel pour les yeux de la belle Lolo, donc il avait été infidèle à sa femme, et qu'à ce moment-là, les rapports, il avait aussi été l'amant de Ninon. Donc il y a eu une période où les rapports entre les deux époux ont dû ne pas être aussi favorable, aussi amusant, aussi brillant, aussi complice que je le dis à un certain moment. Mais je pense qu'ils ont été mariés 7 ans. Et je pense que pendant 5 ou 6 ans, au moins, il y a eu entre eux beaucoup de complicité. Finalement, qu'ils se sont beaucoup amusés l'un l'autre et l'un de l'autre. Car ils avaient des esprits qui, par certains côtés, se ressemblaient dans ce qu'ils avaient l'un et l'autre d'excessif. Pensez, par exemple, que Henri de Sévigné, fiancé à Marie de Rabutin, et devant l'épouser, se bat en duel. Ce qui manque de mettre, bien entendu, le mariage par terre. Et puis, il est à peine rétabli qu'il veut absolument l'épouser sur l'heure pour s'en aller se battre à la guerre. Et qu'il faut que le tuteur de Mme de Sévigné aille d'urgence le calmer pour qu'il attende un peu. C'est un homme très, très excessif. C'est un homme plein de vie, de vigueur, mais aussi c'est un charmeur, c'est un séducteur. Je crois que Charles de Sévigné ressemblait beaucoup à son père et qu'on comprend bien le père en voyant ce Charles qui sera un très mauvais sujet pendant toute une partie de sa vie et puis qui va lui aussi se convertir au janséniste, va devenir un bon mari, va devenir un bon chrétien, va mourir comme un anachorète.
Dans une certaine mesure, contre sa mère.
Bien sûr, parce que sa mère...
Un
homme de cour. Elle aurait voulu qu'il fasse une belle carrière.
Alors, on parle de la vie sexuelle de Madame de Sévigné. Une légende tenace veut qu'ait été conservée une lettre dans laquelle Madame de Sévigné comptait sa nuit de noces.
Ah, ça, j'en entends parler partout.
Elle est probablement née par confusion de lettres échangées entre Madame de Sévigné et Coulanges à l'occasion du mariage de Louis de Provence et d'une allusion de son cousin à la nuit de noces de Françoise Marguerite et du comte de Grignan.
Oui, qui avait été fort malade d'un dévoiement. Enfin, il avait des coliques la nuit de ses noces. Toute la famille le savait, naturellement. Et ceci est parvenu jusqu'à la postérité. Alors, de la nuit de noces de Mme de Sévigné, je dois dire hélas, ou tant mieux, je ne sais, nous ne savons rien. Nous savons simplement que le lendemain, Lefèvre d'Ormesson, son cousin, qui va lui faire une visite, puis, d'autant plus que c'est la mère de Louis Lefèvre d'Ormesson qui a élevé Madame de Sévigné, c'est une des tantes Coulanges dont je parlais, et il note dans son journal qu'il a vu Madame de Sévigné qui lui a paru fort joyeuse. Alors, elle n'a pas pleuré toute la nuit, tant mieux pour elle. Maintenant, est-ce qu'elle a connu les plus grandes délices? Je n'en sais rien non plus.
Alors, il y a le propos de Bussy que vous rapportez dans l'histoire amoureuse des Gaules. Elle est d'un tempérament froid, au moins si l'on en croit son mari.
C'est ça. Elle s'est tirée devant les hommes, et je le crois cocu devant Dieu, dit-elle à propos d'Henri de Sévigné. Ce qui prouve qu'il y a différentes façons de tromper son mari ou de tromper sa femme. Alors là, Bussy est une mauvaise langue, il écrit une satire. Il écrit quelque chose qui est une accusation relativement grave, puisqu'au fond il l'accuse de frigidité. J'ai essayé de montrer dans le chapitre que j'ai consacré aux rapports conjugaux d'Henri de Sévigné et de sa femme, que les choses n'étaient peut-être pas si simple et qu'il y avait pu avoir une évolution. Et je pense personnellement qu'après un accord physique même, assez bon entre les deux époux, Madame de Sévigné n'aime pas les grossesses, Madame de Sévigné n'aime pas avoir des enfants, et je pense que son refus de la sexualité est d'abord un refus des maternités répétées. En quoi elle est précieuse, puisque c'est une des caractéristique des précieuses, que ce refus de la maternité. Au fond, le jeu n'en vaut pas la chandelle, si j'ose dire.
Et ça gâte les lignes.
Ça gâte les lignes, et puis on risque de mourir.
Et c'est le service militaire des femmes.
Voilà. Et peut-être que finalement, elle a vu les fredaines d'Henri de Sévigné d'un œil relativement indulgent, dans la mesure où ça la délivrait d'un devoir, de ce qui était devenu un devoir, dans la mesure où, ayant un garçon et une fille, la lignée était assurée, et par conséquent, elle considérait que c'était mettre trop de prix à la chose que de risquer de ruiner sa santé et sa vie. Alors c'est assez curieux de voir que ce modèle des mères n'est pas, au départ, quelqu'un qui est favorable à des maternités répété.
Alors donc, La Veuve, vous intitulez ce chapitre qui est extraordinairement vivant, plein d'exemples pris dans sa vie, mais aussi dans tous les conseils qu'elle a pu recevoir et dans tout ce qu'elle a pu observer, le comportement des veuves au XVIIe siècle. Je cite ces lignes que vous donnez de Jeanne de Chantal. « La vraie veuve, dit-elle à sa nièce, est en l'église une petite violette de mars qui répand une suavité non pareille par l'odeur de sa dévotion et se tient presque toujours cachée sous les larges feuilles de son abjection, et par sa couleur moins éclatante, témoigne la mortification. » Que de qualité, on demande aux veuves.
Oui, surtout de ne pas se faire voir, finalement, de sacrifier à Dieu sa vie dans la modestie. Alors, il est évident que Mme Sévigné n'a pas retenu ce programme entièrement. Elle a retenu du programme la chasteté de la veuve, certainement. Mais la chasteté physique, beaucoup plus que la chasteté intellectuelle, dans la mesure où elle continue à sortir dans le monde et où elle aime à plaire, où la galanterie lui plaît, en prenant le mot galanterie dans le sens que je lui donne, c'est-à-dire de ce plaisir de montrer que l'on a de l'esprit, finalement.
Oui, enfin, cette femme qui est quand même veuve à 26 ans, comment n'a-t-elle pas l'idée de se remarier?
Je crois qu'elle aime trop la liberté. Puisqu'elle a, vous savez, elle dit à propos de la fille de Bussy quand elle est veuve, elle a été veuve au bout de 6 mois, puisqu'elle a eu un enfant posthume, la fille de Bussy, et elle l'appelle l'heureuse veuve. Et elle a cette phrase, l'état de veuve emporte avec lui l'état de liberté, c'est-à-dire que le veuvage comporte la liberté. Alors je crois que Madame de Sévigné a trop aimé sa liberté pour se soumettre une deuxième fois à un mari.
Alors donc pas de mari, mais par quoi le remplacer?
Par le plaisir d'être belle, d'être admirée, d'être brillante dans la conversation, par le plaisir de se sentir maître de son temps, maître de l'endroit où on vit, par les joies d'esprit. Je n'ai pas dit, remarquez-le, par le plaisir d'élever ses enfants, car traditionnellement, on dit Mme Sévigné ne s'est pas mariée parce qu'elle s'est sacrifiée pour élever ses enfants, et particulièrement sa fille. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que son fils, sa fille ont été élevés, sa fille en partie au couvent, son fils, je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'elle ait passé auprès d'eux et pour eux la plupart de son temps. Et pour preuve, c'est que lorsqu'elle conseille tant à sa fille d'élever, à Madame de Grignan, d'élever elle-même sa fille, la future Madame de Simiane, elle ne dit jamais de faire comme elle l'a fait à propos de sa fille. Elle dit toujours que c'est ce qu'il faut. que c'est la meilleure éducation, mais ne dit jamais à sa fille que c'est celle qu'elle lui a donnée. Et nous savons que Mme Sévigné a placé sa fille un moment au couvent de la Visitation, alors qu'elle, elle avait échappé au couvent. Donc je pense que la, ce qui remplit sa vie, c'est, bon, quelques soucis de gestion des biens, oui, c'est la lecture, c'est de fréquenter des gens d'esprit, et Dieu sait, j'ai montré dans le quelques chapitres, comment elle était à la mode, comment on a fait son portrait, comment Mme Scudéry a fait son portrait, Mme Lafayette a fait son portrait, Sommez a fait son portrait, enfin tous les gens.
Et puis Sirabutin.
Sirabutin a fait son portrait, satirique, mais enfin c'était un portrait. Donc elle faisait partie de ces gens dont on parlait, et elle faisait partie de ces gens qui aimaient se rencontrer, parler et éprouver ensemble qu'ils étaient des gens intelligents.
À travers tout ce que vous venez de nous dire, Roger Duchesne, il y a une chose qui apparaît, c'est que Madame de Sévigné occupe dans le XVIIe siècle une position, au fond, très forte, oui. Très indépendante, oui. Très originale. Parce que si nous prenons les morales du grand siècle dont a pu parler Bénichou, bon, il y a la morale cornélienne, il s'agit d'inventer un type d'homme qui soit parfaitement conforme aux valeurs de cette société. Si on prend la morale racinienne, c'est l'homme terrassé par les passions, et s'il n'a pas la grâce, oui. Il faut attendre que la grâce intervienne pour libérer l'homme de ses passions. L'homme, donc, est écrasé devant un Dieu tout-puissant. Oui. L'homme n'est rien, Dieu est tout. Et Molière, Madame de Sévigné, La Fontaine, occupent le juste milieu, ce qui est une position, encore une fois, au XVIIe siècle, qui n'est pas courante.
Le juste milieu...
Il y a les libertins aussi, oui, mais oui, elle n'est pas libertine. Oui, oui. Vous citez une phrase de Bussy qui est extraordinairement juste. « Jamais personne n'a mieux accordé Dieu et le monde que vous ».
Oui, c'est une phrase qui est très ambiguë parce qu'il le lui dit dans une lettre gentiment et il le dit dans l'histoire amoureuse sous une autre forme. Il dit à peu près que c'est vouloir tromper Dieu que de vouloir ajuster le monde avec les plaisirs.
Il l'appelle, vous l'appelez la précieuse prude à propos. Oui. Cette belle, dit Arabutin de Madame Sévigné, qui veut être à tous les plaisirs, oui. A trouvé un moyen sûr, à ce qu'il lui semble, pour se réjouir, sans qu'il en coûte rien à sa réputation. Elle s'est faite amie de 4 ou 5 demi-prudes, avec lesquelles elle va dans tous les lieux du monde. Elle ne regarde pas tant ce qu'elle fait qu'avec qui elle est. En ce faisant, elle se persuade que la compagnie rectifie ses actions. Et pour moi, je pense que l'heure du berger, qui ne se rencontre d'ordinaire que tête à tête avec toutes les autres femmes, se trouverait plutôt avec celle-ci au milieu de sa famille.
Oui, oui, c'est le thème dont nous avons développé, de cette Madame Sévigné, soutenue par le milieu familial. Mais on est dans une satire, donc il est inversé. Et la famille, au lieu d'être le lieu de la protection, devient le lieu même du péché. Alors n'oublions pas que c'est une satire, mais retenons tout de même cette idée que Madame de Sévigné aime plaire et qu'elle aime être de tous les plaisirs.
Alors un mot peut-être sur ses compagnons, sur cette espèce de jeu galant qu'elle a amené. Il y a un côté célimène quand même chez elle.
Oui, bien sûr. Hein, oui, je crois, oui, bien sûr.
Bon, alors on les cite en vrac, là, en Chabot. Oui, Tonquedec, Vassé, le prince de Conti, oui, oui. Le cousin Bussy-Rabutin dont on vient de parler. Oui. Et puis alors, il y a un favori qui est le comte de Lude.
Il y a eu le comte de Lude. Alors, Bussy, c'est Bussy qui nous raconte l'épisode. Elle aurait aimé le comte de Lude l'aurait aimé. Et elle ne l'aurait aimé que lorsque le comte de Lude, n'ayant pas suffisamment de patience, commençait à cesser de l'aimer à son tour. Donc, elle a eu de la chance, si vous voulez, de ne pas céder, parce qu'il y a eu un décalage entre les deux amours.
Oui, mais elle a toujours gardé. Ça suggère aussi que. Oui. Il n'était pas très doué. Il ne déshonore pas trop les femmes qu'il aime.
Oh, oui, mais bien sûr. Mais Mme Sévigné a toujours gardé une certaine tendresse de cœur pour le comte du Lude, et à 2 ou 3 reprises, beaucoup plus âgée, elle évoque avec une certaine tendresse le comte de Lude parmi tous ceux qui l'ont autrefois aimé et qui ont été très nombreux.
Alors, si vous voulez bien maintenant, Roger Duchesne, brûlons les étapes, quitte à revenir un petit peu en arrière, car l'histoire de Madame de Grignan, avant d'être Madame de Grignan, est une histoire passionnante que vous nous dévoilez dans les détails, puisqu'elle a failli devenir la maîtresse de Louis XIV. Mais j'aimerais quand même qu'on entende la voix de Madame de Sévigné. Et évidemment, c'est dans cette immense correspondance, qui d'ailleurs est une correspondance abondante, répartie sur peu d'années, parce que
8 ans sur 25 ans, oui.
C'est ça. Ces femmes ont été séparées très peu de temps.
8 années.
Alors peut-être pourrait-on entendre une lettre de 1675 qui, je crois, donne le ton de cette correspondance. Lettre écrite par Madame de Sévigné alors qu'elle est à Ivry. Il faut rappeler que Madame de Grignan, sa fille, est partie pour la Provence en 1671, que ensuite Madame de Grignan a vu arriver sa mère en 1672, qu'elle a eu un enfant qui est mort-né en 1673. En 1675, Madame de Grignan est venue à Paris en février. Et donc, voici cette lettre qui date du 21 août 1675 que lit Sylvia Montfort.
En vérité, ma bonne, vous devriez bien être avec moi. J'y suis venue ce matin toute seule, fatiguée et lasse de Paris, jusqu'au point de n'y pouvoir durer. Notre abbé est demeuré pour quelques affaires. Pour moi, qui n'en ai point jusqu'à samedi, me voilà. Je prendrai demain ma troisième petite médecine, en paix et en repos. Je marcherai beaucoup. Je m'imagine que j'en ai besoin. Je penserai extrêmement à vous, pour ne pas dire continuellement. Il n'y a ni lieu ni place qui ne me fasse souvenir que nous y étions ensemble il y a un an. Quelle différence! Il m'est doux de penser à vous, mais l'absence jette une certaine amertume qui serre le cœur. Ce sera pour ce soir la noirceur des pensées. Je me fais un plaisir de vous entretenir dans ce petit cabinet que vous connaissez. Rien ne m'interrompt. J'ai laissé M. de Coulanges bien en peine de M. de Sanzay. Pour M. de la Trousse, depuis mes chers romans, je n'ai rien vu de si parfaitement heureux que lui. N'avez-vous point vu un prince qui se bat jusqu'à l'extrémité? Un autre s'avance pour voir qui peut faire une si grande résistance. Il voit l'inégalité du combat, il en est honteux, il écarte ses gens, il demande pardon à ce vaillant homme qui lui rend son épée à cause de son honnêteté, car sans cela, il ne l'eût jamais rendu. Il le fait son prisonnier, il le reconnaît pour un de ses amis du temps qu'ils étaient tous deux à la cour d'Auguste. Il traite le prisonnier comme son propre frère, il le loue de son extrême valeur. Mais il me semble que le prisonnier soupire. Je ne sais s'il n'est point amoureux, je crois qu'on lui permettra de revenir sur sa parole. Je ne vois pas bien où la princesse l'attend. Et voilà justement l'histoire. Quand je vous mande de certaines choses de Versailles, je les apprends ou de Monsieur le Premier, que je vois assez souvent, et chez lui, et chez moi, et chez Madame de Lavardin, et de Lafayette, ou de Monsieur le Grand Maître, ou du fils de Monsieur de La Rochefoucauld. Ces auteurs-là ne sont pas méchants. Ils ne veulent jamais être cités pour les moindres bagatelles. Il y a des gens bavards dont je ne prends jamais les nouvelles. Voulez-vous savoir ce que les valets de chambre ont écrit? Vous savez comme en un certain lieu on aime les lettres ridicules. L'un fait un inventaire de ce qu'il a perdu. Son étui, sa tasse, son buffle, son côte-bec. C'était, dit-il, un désordre de diable. Ma foi, si j'avais été général, cela ne serait pas arrivé. Un autre dit... Nous avons été joliment téméraires. Nous n'étions que 7000 hommes, nous en avons attaqué 26. Aussi, il faut voir comme nous avons été frottés. Un autre dit, nous nous sommes sauvés, tout le plus diligemment que nous avons pu. Et si, nous n'avons pas laissé d'avoir grand-peur. Vous voyez qu'il y a des garçons pâtissiers partout. Il faut avoir, ma bonne, un étrange loisir pour vous conter de telles sottises.
Roger Duchesne, pouvez-vous commenter cette lettre et nous dire ce qu'elle nous apprend d'abord sur l'immense talent de Madame de Sévigné et peut-être ensuite sur Madame de Sévigné, témoin de son temps, et après nous parlerons de Madame de Grignan.
Oui, l'immense talent de Madame de Sévigné est un talent difficile parce que c'est une lettre pleine d'allusions. Enfin, le garçon pâtissier, ça demande une note pour expliquer cette expression qui revient dans la lettre. La lettre, c'est toujours un peu un genre de la complicité. On a des expressions familières qu'on utilise avec le correspondant parce qu'on les a déjà utilisées une fois avant, parce que ça fait partie d'une espèce de code familial. Et c'est une des difficultés de la correspondance que d'entrer dans ce code familial. Il y a un style sévignien qui est une façon de dire les choses autrement que... les gens le disent, mademoiselle de Scudéry déjà l'accréditait de cet art de la trouvaille, de cet art de dire les choses autrement. Et je crois qu'on le voit assez bien dans ce texte. Alors, l'autre aspect, même s'il est témoin de son temps, il est certain que cette lettre est à la fois très caractéristique et un petit peu tout de même déformante. Je veux dire par là qu'il y a un long passage de récit où elle conclut ce qu'il faut qu'elle ait bien du loisir pour attribuer tant de place dans sa lettre à de telles bagatelles. Et si vous le remarquez, Par rapport aux nouvelles, il y a deux attitudes. Il y a une attitude dans la dernière partie, une attitude critique. Elle raconte pour une fois des fausses nouvelles en se moquant du ton et du style de ceux qui veulent tellement donner des nouvelles quand ils écrivent qu'ils disent à peu près n'importe quoi. Alors elle dit n'importe quoi, mais au second degré, puisque c'est pour donner un exemple au fond de ce qu'il ne faut pas faire. Elle fait bien, pour une fois, ce qu'il ne faut jamais faire. Et dans la première partie, alors lorsqu'elle raconte la façon dont son cousin Latrousse a été fait prisonnier dans un combat, dans une défaite que nous avions subie, alors il y a encore une nouvelle, bien entendu, puisque il y a la défaite, il y a le récit de la capture du cousin, mais ce récit est fait comme un roman. Elle, ça, c'est l'aspect, c'est ce goût, c'est cet esprit romanesque de Mme Sévigné. Elle adore retrouver dans la réalité ce qu'on trouve dans ses chers romans. Eh bien, le prince courageux, héroïque, qui se fait prisonnier et qui se trouve être fait prisonnier par quelqu'un qui est son ami, c'est quelque chose qu'elle a lu dans le Grand Cyrus, c'est quelque chose qu'elle a lu dans le Clélie. Et alors, elle est toute heureuse de retrouver un événement dans la vie réelle qui ressemble au roman. Et inversement, d'ailleurs, elle aime beaucoup à propos
ajouter le roman,
ajouter le roman à la réalité.
Et on le verra d'ailleurs tout à l'heure, peut-être pour la description de la Provence, oui. Pour laquelle d'ailleurs vous venez de consacrer un livre.
Oui.
Peut-être pourriez-vous nous rappeler le titre de ce livre.
Oui, j'ai écrit un ouvrage, alors qu'il n'est pas sévignien du tout, qui s'appelle « Et la Provence devint française » et qui est une histoire de l'union de la Provence à la France. C'était le 10 décembre 1981, le 500e anniversaire de cet événement. Il y a un demi-millénaire que la Provence est devenue française.
Chez quel éditeur ?
Aux éditions Mazarine. Alors j'ai été conduit à écrire ce livre, d'abord parce que ça m'avait intéressé de savoir que cet événement s'était produit il y a 500 ans et que j'ai aimé me raconter à moi-même et aux autres comment cela s'était produit. Et parce que j'avais été au fond sensibilisé à cette question par Madame de Sévigné. Vous l'avez dit, Madame de Sévigné écrit à Madame de Grignan. Madame de Grignan, c'est la femme du comte de Grignan, qui est lieutenant général en Provence. Donc, il est le représentant du roi. Il est le représentant du pouvoir central. Et il y a toute une partie des lettres qui est consacrée à ce rôle difficile d'être le lieutenant général représentant le roi, donc l'agent du pouvoir central, dans une province, la Provence, qui est celle, peut-être, qui, en France, a gardé le plus de franchises, de privilèges, et qui a gardé le plus d'autonomie et d'originalité. Ça m'a donc intéressé de voir comment ce que j'avais pu étudier à propos des lettres au XVIIe siècle trouvait ses sources 200 ans avant, au moment de l'Union, et même bien avant, puisque cet état de fait ne peut s'expliquer que si on remonte à l'occupation d'une frange de la Gaule par les Romains.
Alors, ce qui est très curieux, vous consacrez plusieurs pages à la Provence de Madame de Grignan, que voit Madame de Sévigné à la fois dans sa double vie, c'est le titre de votre chapitre, oui. Et dans une sorte de double vue.
C'est ça.
Puisqu'elle est tellement imprégnée de sa fille qu'elle la voit en tel lieu, absente, elle la cherche au point qu'elle la voit, elle est présente près d'elle. Alors, je cite vos textes, je me suis fait une Provence, une maison à Aix, et Madame de Sévigné qui écrit, par Madame de Grignan, puisqu'on a pas ses lettres, peut-être plus belle que celle que vous avez. Je vous y vois, je vous y trouve. Pour Grignan, je le vois aussi, mais vous n'avez point d'arbres, je ne vois pas bien où vous vous promenez. Alors, comme Madame de Sévigné, écrivez-vous, on peut imaginer Madame de Grignan dans le décor que formait sur les murs la tapisserie de taffetas bleu avec des raies noires. Il y en avait 5 pièces et 2 petites sur les portes, et le rideau de fenêtre du même taffetas, allongée sur son lit d'ange, au bas duquel se trouvait un tapis de paille de jonc, elle bavardait, c'est Madame de Grignan, avec ses visiteurs assis sur l'un des 8 fauteuils et les 4 chaises de même taffetas que la tapisserie, garnie de franges de même couleur, ou sur l'une des 4 chaises et fauteuils à colonne torse. Au centre se dressait sur un tapis de cuir, une table de bois de noyer, garnie d'ébène et d'ivoire autour avec les guéridons du même bois. Dans la cheminée, on voyait une paire de chenets en laiton, et au mur, un grand miroir de bois noyer, garni de chiffres avec des bordures dorées. Un grand et un petit cabinet complétaient l'appartement. Il y avait des meubles de rechange dans la garde-robe. Et à Roger Duchesne, vous qui vous intéressez tant à la Provence, vous n'avez plus qu'à reconstituer un musée Grignan à Aix-en-Provence.
Mais il y a un musée Grignan à Grignan. Il faut dire que le château de Grignan a été racheté par le département de la Drôme et que l'on s'y efforce d'y recueillir la majeure partie de ce qui peut rester du mobilier de Madame de Grignan. Alors, oui, il y a le réel et il y a l'imaginaire, si vous voulez. Et vous avez choisi, je crois, à juste titre ce passage, puisque d'un côté, on voit même de Sévigné disant « Je me suis fait une province de fantaisie, je me suis fait une demeure de fantaisie, j'ai inventé votre cadre de vie, et que j'ai retrouvé un inventaire dans sa sécheresse, fait par le maître d'hôtel du comte de Grignan, qui avait établi l'état des lieux quand la comtesse de Grignan arrive pour la première fois au château de Grignan. Alors grâce à cet inventaire, on peut savoir qu'elle vivait dans ce décor bleu que j'ai décrit d'après l'inventaire. Mais madame, il faut effectivement remarquer que pendant toute la première partie de la correspondance, madame de Sévigné s'efforce, à partir des lettres de sa fille, à partir de ce qu'elle a entendu dire par mademoiselle de Scudéry, qui est de ses amis et qui est allée en Provence avant, à partir de Mascaron, qui est marseillais et qu'elle fréquente. Non seulement c'est son prédicateur à sa paroisse, mais elle l'invite à dîner pour bavarder avec lui de la Provence. Donc à partir de ses livres, à partir des conversations qu'elle peut avoir avec des Provençaux qui sont à Paris, et à partir des lettres de madame de Grignan, elle se fait une Provence parce qu'elle a besoin, c'est une des caractéristiques de son imagination, elle a besoin de voir sa fille dans un décor réel. Elle a besoin, qu'elle imagine comme réel. Elle ne peut pas. Elle dit, il faut que j'aie un lieu où vous prendre, n'est-ce pas? Elle a besoin d'un décor pour voir vivre sa fille. Alors, elle a à la fois le besoin sentimental de suivre sa fille pas à pas, de comprendre ce qu'elle fait, de voir où elle est, et d'imaginer là où l'information fait défaut.
Et c'est un effort d'autant plus grand. Vous insistez constamment, et à juste titre dans ce livre, Madame de Sévigné, ou La chance d'être femme, publié chez Fayard, vous insistez constamment sur le fait que le ton de ces lettres ne se comprend que par les retards. Il ne faut pas oublier quand même que la poste ne fonctionnait pas très vite. De même, le déplacement, aller en Provence, vous prenait 15 jours.
Bien sûr. Nous sommes encore dans une époque où l'espace, c'est du temps. N'est-ce pas? Et Madame de Sévigné, lorsqu'elle est à Paris, elle écrit deux fois par semaine. Elle a la chance, grâce à Louvois, d'avoir une poste qui existe et qui marche bien. Mais elle marche deux fois par semaine. Elle peut donc écrire deux lettres par semaine, ce qu'elle fait. Et Madame de Grignan, pareillement, peut lui répondre deux fois par semaine. Seulement, elle répond toujours aux lettres avec un grand décalage, puisqu'il faut, en gros, de Paris à Grignan ou de Paris à Aix, si le temps est convenable, 6 jours. Donc, il y a un décalage qui est consécutif à ces kilomètres, à ces lieux qui se manifestent par ce décalage chronologique. Et lorsqu'elle est au Rocher, le décalage s'accroît encore, puisque de Paris à Vitré, près de Rennes, il faut compter 3 jours.
Il faut dire que les Rochers étaient une propriété des Sévigné.
C'est cela.
Sur laquelle elle a constamment veillé, et elle a séjourné parfois pendant un an, ou même 18 mois au Rocher.
Oui. La majorité des lettres que nous avons sont écrites finalement des Rochers. Il y a plus de lettres écrites des Rochers que de lettres écrites de Paris ou d'ailleurs.
Alors pourquoi cette femme, Marguerite Françoise de Sévigné, qui va devenir Madame de Grignan, la plus jolie fille de France, comme on disait, la plus jolie fille du royaume, pourquoi est-elle allée s'enterrer en Provence après 3 tentatives de mariage qui ont mal tourné? Madame de Sévigné parle de sa fille comme la reine des incidents. Quels incidents a-t-elle créé, cette beauté?
Bien, je crois que le mariage de Françoise Marguerite n'a pas été facile. C'était une jolie fille qui avait une jolie dot, et pourtant elle était difficile à marier. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison, qui est qu'au fond, Madame de Sévigné n'avait pas de chance dans ses relations. Elle est la cousine de Bussy. Bussy est exilé. Elle a été mariée à Henri de Sévigné parce que ça apportait à la famille Coulanges l'alliance des Gondis, c'est-à-dire du cardinal de Retz. Or, le cardinal de Retz a été exilé. Elle a été l'amie très chère de Fouquet. Or, Fouquet est enfermé à Pignerol. Alors, voilà la situation. Enfin, Mademoiselle de Sévigné appartient à une très bonne et très noble famille, elle a une riche dot, mais c'est une famille qui risque de ne pas être bien vue par le pouvoir royal. À quoi s'ajoute que mademoiselle de Sévigné a dansé dans les ballets royaux avec mademoiselle de La Vallière et avec madame de Montespan, que Loret a insinué malicieusement que c'était un morceau de roi et que les courtisans un peu circonspects pouvaient s'inquiéter en voulant épouser mademoiselle de Sévigné, de marcher sur les brisées du roi. Dans la mesure où c'était une très belle fille et qu'elle avait été remarquée pour danser à la cour, Louis XIV aurait pu jeter les yeux sur elle, et il était donc de mauvaise politique de risquer ou bien d'être un futur monsieur de Montespan, ou bien d'emmener loin de la cour.
Il s'est parti en Provence, voilà. S'il avait été un futur mari de Montespan.
Voilà, et bien c'est d'ailleurs ce qui s'est produit finalement. Alors, je crois que ce sont là des éléments qui expliquent la difficulté du mariage. Alors, en revanche, le comte de Grignan va passer sur ses inconvénients. Il va passer sur ses inconvénients, non pas parce que c'est un vieillard qui est prêt à tout, car le comte de Grignan, quand il épouse Françoise Marguerite de Sévigné, a 12 ans de plus qu'elle, mais il n'a que 35 ou 36 ans. Enfin, il est donc encore d'un âge tout à fait raisonnable. Il a une très belle taille, il a une très belle prestance, il a été marié deux fois, ce qui est loin d'être un handicap, car par son premier mariage, il appartient à la famille de Madame de Rambouillet. Tout le monde connaît Madame de Rambouillet et sa célébrité. Par le deuxième mariage, il est allié aux pomponnes de Bellièvre qui ont fourni à la fois un chancelier de France et un premier président du Parlement de Paris, donc une très grande famille. Et peut-être que le mariage avec le comte de Grignan, c'est pour les Sévigné le moyen de retrouver ces alliances avec de grandes familles et de grands noms qu'ils ont perdues dans la mesure où les Rabutin, les Fouquet ou les Ré sont désormais des familles déconsidérées. Alors donc, Madame de Sévigné va donner sa fille au comte de Grignan, de surcroît, je crois qu'il y a eu un sentiment de tendresse, sinon d'amour entre les deux futurs. Et j'ai cité ce texte, le comte de Grignan voulant dire le secret de son cœur, s'il se rencontre assez de bien pour être heureux, n'est-ce pas ? On a bien ici une image de ce mariage du XVIIe siècle où on n'exclut pas, bien entendu, le sentiment, mais s'il n'y a pas l'argent qui va avec le sentiment, c'est vouer le sentiment à l'échec.
Encore que vous récusiez le texte qu'on a toujours prêté à Madame de Sévigné, il faut du fumier pour...
Fumer ses terres. Il faut bien fumier pour fumer ses terres. Mais c'est un texte qui est postérieur, et c'est Madame de Grignan qui l'aurait dit à propos du mariage de son fils. Alors oui.
Maintenant, alors, l'affaire Fouquet, vous l'avez évoquée, il faudrait dire ici combien Madame de Sévigné a été courageuse. D'autant plus courageuse qu'elle occupait à la cour une position très en vue. Et le procès Fouquet, on la connaît en grande partie grâce à ses lettres.
Oui, mais ce sont des lettres privées. Ce ne sont pas des lettres qui étaient publiques.
C'était
des
lettres qu'elle envoyait. Nous connaissons les trois siècles d'intervalle.
Oui. Alors,
des audiences extrêmement pathétiques. Oui. Enfin, où c'est une Fouquet se défend comme un diable, puisque le roi l'accuse. Et il est évident qu'à l'époque, comme dit Bussy Rabutin, contredire le roi, c'est avoir tort. Déplaire au roi, c'est avoir tort. On ne peut pas déplaire au roi, donc on doit penser que Fouquet est coupable. Alors Fouquet rétorque, mes ennemis ne sont pas contentés d'abuser de leur autorité pour me perdre, d'y avoir employé les artifices, d'avoir violé toutes les lois du royaume, de s'être dispensé de toutes les formes essentielles des procès criminels, d'avoir suborné des témoins pour déposer des faussetés, d'en intimider d'autres, d'avoir maintenu des juges notoirement suspects, enfin d'avoir supposé, tronqué ou altéré la plupart des pièces. C'est une véritable affaire, au sens où plus tard, Voltaire parlera de l'affaire Calas.
C'est ça. Fouquet. Il y a eu une affaire Fouquet, ça c'est certain. L'attitude de Mme Sévigné, elle est sentimentale. Et je crois que rien n'est plus intéressant que de comparer ce qu'écrit Madame de Sévigné à Pomponne et le journal d'Olivier Lefebvre d'Ormesson, qui est juge du procès, pour voir d'un côté l'esprit juridique, celui qui voit le bien fondé ou le non fondé, et qui finalement prendra par rapport à Fouquet une position indulgente et presque de défense, mais en tant que juriste. Et d'un autre côté, Madame de Sévigné, qui, à partir des indications que lui donne d'Ormesson, adopte une attitude alors extrêmement sentimentale. Au fond, pour elle, Fouquet a raison, parce qu'il est beau, parce qu'il est aimable, parce qu'elle a vécu auprès de lui, et non pas pour des raisons qui sont des raisons juridiques. Vous voyez. Oui. Et toute sa vie, c'est comme ça. Madame de Sévigné n'est pas du tout quelqu'un qui juge avec ça.
Et c'est d'autant plus détaché que quand Fouquet sort de sa prison pour aller à son procès, elle le voit passer comme on voit passer un accusé. Elle ne sait même pas s'il la reconnaît.
Bien sûr, parce que c'était un espèce de jeu entre les belles dames de l'époque que de suborner quelques gardiens pour se trouver sur le passage et voir le prisonnier passer. Et alors elle est toute heureuse de voir que malgré sa prison, il a gardé son air gai et ouvert.
Alors, peut-être revenons à ses lettres. On a souvent calomnié Madame de Sévigné. On a dit qu'elle avait pour sa fille un amour qui était un amour pratiquement incestueux. Gérard Gailly a toujours soutenu le contraire, tout en montrant quand même que ces lettres, c'est toute la passion. Je trouve que tout me manque parce que vous me manquez, c'est toute la passion racinienne qui est dans ces lettres.
Il est certain que le sentiment de Madame Sévigné pour sa fille est un sentiment de passion et que le départ de sa fille détruit son bonheur, son équilibre intérieur. Il est certain aussi que dans ces lettres, le premier projet, c'est d'exprimer la lamentation sur le départ, c'est d'exprimer le trop-plein d'un cœur qui souffre, et que de ce point de vue, on peut parler de Mme Sévigné, la lettre d'amour, on peut parler de passion. Alors, tout le point est de savoir si être mère excessive, être mère abusive, ça veut dire par là même qu'on éprouve envers la fille qui est l'objet de cette tendresse excessive des désirs incestueux et des désirs homosexuels. Alors, je crois que peut-être il ne faut pas confondre les genres et que les mères abusives et les mères excessives sont très nombreuses. Est-ce que toute mère abusive et toute mère excessive ne l'est que parce qu'elle éprouve envers sa fille des désirs qui sont en même temps incestueux, homosexuels? Personnellement, je ne le pense pas. La volonté de puissance peut suffire pour expliquer cela. Le désir aussi de venir au secours d'un être qu'on trouve un peu faible, car même s'il y a toujours eu tendance à trouver sa fille un peu faible et démunie dans la vie, à tort ou à raison, et de venir à son secours, par conséquent de la louer, de lui dire qu'elle est quelqu'un de bien, enfin de trouver des arguments, de la louer d'autant plus qu'elle a peur que sa fille se dénigre, tout ça peut suffire à expliquer une passion. On peut parler, si vous voulez, d'amour de fuite, dans la mesure où Madame de Grignan refuse d'être semblable à sa mère et par conséquent refuse aussi l'excès. Madame Sévigné, je vous l'ai dit, c'est un tempérament excessif. Madame de Grignan, c'est au contraire un tempérament mesuré. Alors il y a entre les deux femmes un déséquilibre, un décalage, et qui explique que Madame Sévigné toujours la convaincre, la persuader que c'est elle qui a raison. Alors je crois que toutes ces raisons-là peuvent expliquer. Entre Mme Sévigné et sa fille, l'existence d'une passion, sans que l'on ait recours à d'autres sortes d'explications. Il reste qu'on a deux ou trois textes que j'ai cités, que j'ai essayé de comprendre, où Mme Lafayette en particulier semble dire que Mme de Sévigné, son amie, aurait finalement pour les femmes plus d'attrait que pour les hommes. Alors je crois que le texte, il faut le replacer dans son contexte, où Mme de Sévigné fait le portrait de Madame de Lafayette, fait le portrait de Madame de Sévigné sous le nom d'un inconnu, c'est-à-dire qu'elle parle en se présentant comme un homme, et cet homme reproche au fond à Madame de Sévigné de ne pas assez aimer les hommes, et par conséquent d'aimer trop les femmes. Et je crois que peut-être c'est plus une clause de style que véritablement une accusation qui est prononcée contre Madame de Sévigné.
D'ailleurs, vous avez étudié tout ça d'une manière extrêmement mesurée, à la fois au moment de la séparation, au moment des retrouvailles, et surtout au moment de la conversion de Madame de Sévigné, où elle se rend compte que finalement sa fille est plus équilibrée qu'elle, et qu'elle doit se ranger à ses raisons. Alors je cite Saint-Clique de Vaux, Roger Duchesne, « En vérité, dans sa passion abusive, écrivez-vous, Madame de Sévigné ne s'aperçoit pas que ce qu'elle offre, c'est la tentation de la facilité, oublier mari, argent et province pour retrouver en même temps qu'une mère des habits parisiens et une vie agréable et paisible. » Parce qu'elle ne veut rien moins que voir sa fille constamment à Paris, donc pratiquement laisser l'intendant tout seul en province.
C'est ça.
Comme s'il avait été monsieur de Montespan.
C'est ça, laisser le comte de Grignan en Provence et que sa fille soit auprès d'elle à Paris. Alors évidemment, vous avez dit tout à l'heure, Madame de Grignan obscure au fond dans une province. Alors je crois qu'il faut bien distinguer. Évidemment, loin de la cour, loin du roi. Donc, d'un certain côté obscur. Tout ce qui n'est pas près du soleil est obscur, hein, ça fait partie de la devise royale. Mais d'un autre côté, le comte de Grignan, et lieutenant général, il représente le roi. Et Madame de Sévigné écrit à sa fille, vous êtes comme la reine. Et je crois qu'au fond, Madame de Grignan et son mari ont eu cette grande sagesse de penser qu'il valait mieux être le premier dans son pays que le second à Paris, que le second à Rome. Et le comte et la comtesse de Grignan ont mené en Provence une vie d'ostentation, une vie de richesse, une vie peut-être pas tout à fait de pouvoir, car à côté du comte de Grignan, qui est en général, il y a l'intendant, il y a le premier président. Enfin, tout de même, il exerce
une
autorité.
C'est une vie de vizir, si on peut dire.
C'est le roi présent en la province, je crois. Nom de vizir, ça donne un petit côté oriental et capricieux, qui peut-être est excessif. Mais il y a ce plaisir de se sentir, comme dit Mme de Sévigné aussi, une véritable grande dame. Et je crois que le château de Grignan, n'est-ce pas, dans sa majesté, c'est ce très beau château, ce château qui occupe un piton rocheux, qui domine toute la plaine, eh bien, c'est le symbole même de cette situation des Grignans qui domine toutes les autres familles. D'abord parce que le comte de Grignan, c'est un Adhémar, il avait des ancêtres aux croisades, il a eu des ancêtres qui ont combattu aux côtés des premiers papes allant vers les croisades. Et d'autre part, ils ont été... Plusieurs d'entre eux ont été avant lui lieutenant général en Provence. Donc ils ont été très souvent ces rois par délégation de la Provence. Donc une très grande famille, très consciente de sa valeur, et une famille qui aime exercer le pouvoir, est peut-être un mot excessif, mais l'autorité, l'auctoritas. Madame de Sévigné dit d'ailleurs, à propos de son gendre, une autorité qui tient non seulement à votre charge de lieutenant général, mais aussi au nom que vous portez. Se sentir appartenir à une très grande famille et se sentir respecté parce qu'on a un nom des ancêtres. C'est l'idéal aristocratique, je crois, de beaucoup de nobles du XVIIe.
Enfin, la conclusion de tout ce que vous venez de dire, Roger Duchesne, sur Madame de Sévigné, Madame de Grillard et leur correspondance, c'est qu'au fond, on aurait très bien pu avoir cette correspondance sans savoir qu'elle était à Madame de Grillard et penser que c'était une correspondance d'amour. Telle que vous les avez étudiées au XVIIe siècle, c'est une correspondance avec les effusions, le mysticisme que l'amour supposait, la tendresse, les élans, les abattements, les crises, quand on est éloigné. Enfin, pratiquement, ce sont des lettres d'amant.
Le mot me choque, parce que je crois que...
Je prends l'amant au sens du XVIIe siècle.
Oui, mais tout de même, je crois que... Enfin, il faut... Là encore, il y a une histoire. Avec Madame Sévigné, c'est pour ça que je suis content d'avoir cette biographie. Rien n'est jamais absolument vrai, parce que ça dépend toujours un peu du moment où on se place. Et au fond, j'accepterai ce que vous dites à peu près pour les lettres de 1671-1672, c'est-à-dire du tout début de la correspondance, mais je ne l'accepterai alors plus du tout pour, pour la fin de la correspondance, où on a une correspondance où finalement, on a des rapports de mère et de fille beaucoup plus traditionnels.
Et je crois qu'il faut dire que Madame de Grillard, donc, a joué admirablement son rôle d'épouse et de mère, tout en aimant sa mère. On a dit que Madame de Grillard était froide, insensible et parfaitement insoucieuse de sa mère. Ce n'est absolument pas vrai à travers une biographie.
Répondre, comme elle l'a fait deux fois ou trois fois par semaine à sa mère, régulièrement, alors qu'elle, elle n'a pas... Elle a autre chose à faire que d'écrire. Elle est la femme du lieutenant général, elle a donc un devoir de présentation. Elle a une fortune à gérer et une fortune qui est au bord de la chute, puisque le comte de Grignan mourra ruiné. Donc elle a retardé cette ruine pendant 30 ans. Donc elle a des enfants à élever. Elle a donc beaucoup d'obligations. Et malgré ces obligations, elle écrit régulièrement, longuement à sa mère. Elle entre même dans le système de pensée de sa mère pour lui répondre. Elle entre dans la tendresse, évidemment avec une réserve qui est naturelle. Elle répond à la passion maternelle par une tendresse filiale. Et je crois que c'est un très grand mérite que d'avoir régulièrement, que d'avoir constamment, que d'avoir tendrement répondu à ce torrent de passion sévignien.
Alors peut-être peut-on entendre encore une lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grillard. Toujours cette lettre d'Ivry, qui est très longue, une des plus longues de la correspondance, du 21 août 1675. C'est Sylvia Montfort qui lit cette lettre.
Admirez combien je suis peu destinée à la solitude. J'ai pris ce matin mes deux verres de séné, bien sagement. Je ne me suis point coiffée en toupet. Je suis demeurée jusqu'à midi, spensierala, de crainte de troubler mes opérations. Comme je les finissais, voilà un carrosse à six chevaux. J'avais un pigeon pour mon dîner. C'est monsieur... Madame de Villard, Madame de Saint-Géran et la petite ambassadrice qui se sont fait un grand plaisir de me surprendre toute seule par le plus beau temps du monde et montrer ces jardins que vous connaissez à Monsieur de Villard. Vous entendez tout ce qui se dit. Conclusion, mon cuisinier se met à fricasser des poulets, des pigeons et nous avons très bien dîné. Nous nous sommes promenés jusqu'à 6 heures et puis l'abbé est venu qui a mis dans sa calèche Monsieur de Coulanges et Mademoiselle Martel. Ils ont apporté des perdreaux. Et voilà ma pauvre solitude où je me trouvais parfaitement bien. Le pauvre monsieur de Sanzay est toujours perdu. On ne le trouve ni dans les morts, ni dans les blessés, ni dans les prisonniers. Guillerague a demandé au roi s'il ne savait point de ses nouvelles. Il a répondu très bonnement qu'il en était en peine et qu'il ne comprenait point du tout où il pouvait être. Jugez de l'état de cette pauvre femme. Je laisse à monsieur Dacqueville à vous mander les nouvelles. Je ne sais que le siège de Trèves. Je crains un détachement pour mon fils. Envoyez-moi de votre courage pour l'aimer mieux en Allemagne qu'à la messe aux Minimes. Vous dites là-dessus des choses admirables. Le jeu des tambourineurs, c'est de dire la réunion des deux amis, mais assurément cela n'est point fait. Le roi des tambourineurs, c'est Branca et sa fille. De tous deux, vous savez le reste. C'est un chef-d'œuvre que ce couplet et un chef-d'œuvre d'en avoir gardé le secret. Le prince d'Harcourt a perdu un frère et monsieur de Grignan un cousin germain. Je ne sais si vous avez senti cette perte. Elle a paru ici à peu près comme celle d'une aiguille dans une boîte de foin. J'ai appris encore que feu Saint-Luc mettait monseigneur à tous les maréchaux de France parce que son père l'était. Et le comte de Guiche par cette même raison. Cela donne la loi aux autres. Et ce n'est plus la mode d'y marchander quand on fait tant que leur écrire. Je vous conseille, après Monsieur de Pomponne, de n'y pas marchander à Monsieur de Vivonne. La royauté est établie au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. On ne se lève plus et on ne regarde personne. L'autre jour, une pauvre mère tout en pleurs qui a perdu le plus joli garçon du monde demandait sa charge à sa majesté. Elle passa. Ensuite, et tout à genoux, cette pauvre madame de Froulay se traîna à ses pieds, lui demandant avec des cris et des sanglots qu'elle eût pitié d'elle. Elle passa sans s'arrêter.
On ne va pas suivre dans le détail la vie de Madame de Sévigné. On a évoqué son enfance, on a évoqué les rapports avec sa fille, le rôle de sa fille dans sa vie, les intrigues pour marier cette fille, les intrigues avec le roi, Fouquet, donc déjà beaucoup de choses. Mais il y a un point que vous éclairez, Roger Duchesne, et qui, il me semble, n'a jamais été mis en évidence, c'est Madame de Sévigné et les révoltes populaires au XVIIe siècle, et en particulier ce qu'elle a pu connaître quand elle était au Rocher dans ces années 1775.
Alors, Madame de Sévigné et le peuple, ça pourrait être le sujet d'un article, évidemment. Je crois qu'on a écrit là-dessus des choses assez grinçantes, car Madame de Sévigné est une aristocrate. Elle a avec le peuple les rapports d'un aristocrate avec ses domestiques, avec ses fermiers. Elle n'a pas de rapports familiers, quotidiens. Elle ne participe pas à leurs peines. Elle est préservée. Et lorsqu'on envoie par exemple les troupes en Bretagne, son premier soin, c'est évidemment d'intervenir auprès de gens qu'elle connaît pour que ces terres ne subissent pas le contre-coup de cette occupation, mais c'est dans un but économique. C'est parce qu'elle se soucie, elle se soucie de ne pas perdre son revenu qui serait diminué si les paysans qui cultivent ces terres étaient taxés par l'armée. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir dans l'attitude de Sévigné par rapport au peuple une attitude sentimentale que les gens de son époque ne partageaient guère. Alors, en revanche, ce qu'on constate aussi, c'est combien elle a cette sensibilité primaire, disons. D'un côté, lorsqu'elle écrit à Bussy, elle a tendance à faire de l'esprit sur ses vilains pendus, ou bien elle a tendance à dire que tout lui est bon pourvu qu'on ne lui mange pas son bien. Enfin, il y a donc des phrases assez dures et qui l'ont fait juger très sévèrement par certains Bretons en particulier, qui ont très mal pris cette espèce d'insensibilité par rapport à la misère des Bretons lors de la révolte du Parpier timbré. Et alors, en revanche, le jour où un de ses parents passe chez elle et lui raconte les pleurs et les malheurs de ces Bretons chassés de chez eux lors de la répression, alors elle est bouleversée. Le récit des misères la bouleverse. Mais il faut bien voir que, selon la lettre, selon le correspondant, selon le jour, selon la personne qu'elle vient d'entendre, elle peut adopter, par rapport à un événement de ce genre, une attitude qui est tout à fait différente et même, à la limite, contradictoire.
Oui. Et enfin... Il faut signaler aussi qu'elle imagine de la situation de sa fille.
Voilà, j'allais le dire. Il y a aussi le fait que ces Bretons se sont révoltés contre le gouverneur de Bretagne, qu'ils ont jeté des pierres dans le jardin de Madame de Chaunes, qui est son amie et qui est l'homologue en Bretagne de ce qu'est Madame de Grignan en Provence, et que, par contre, c'est quand elle est solidaire des Chaulnes, dans la mesure où elle se sent solidaire des Grignans, et où, quand le peuple se révolte, eh bien, les gouverneurs sont obligés de prendre des mesures de répression.
Alors, votre livre apporte des données quand même assez intéressantes, qui, je crois, sont nouvelles, parce que je n'ai pas vu, je connais assez bien les traités d'histoire économique, mais on ne voit pas suffisamment, peut-être, ces nobles obligés de vivre sur leurs terres pour, comme elle le dit, sauver son pain, c'est-à-dire vivre dans une sorte d'économie de subsistance, puisque les fermages ne rapportent plus rien.
Oui, on est dans une période de crise, le numéraire manque, les fermiers n'ont pas d'argent pour payer, et par conséquent, le seul moyen de se faire payer, c'est d'aller manger son pain, son beurre, son blé, enfin, d'aller subsister sur ces terres, de manière à pouvoir faire des économies. Alors, évidemment, selon la période où on se place, Mme Sévigné est une très riche héritière au moment de son mariage, et elle est une vieille dame pauvre au moment où elle meurt. Et dans l'intervalle, il y a eu toute une évolution économique que j'ai essayé de reconstituer en toile de fond, qui explique les dévaluations, comme nous dirions aujourd'hui, du moins les baisses du taux des rentes en particulier, puisque une grande partie de ça, les deux tiers de sa fortune, viennent des coulanges, et par conséquent de rentes sur les tailles, de rentes sur les gabelles, et Colbert y a opéré des coupes sombres, et elle a perdu presque les deux tiers de son bien par cela. Puis d'autre part, en établissant ses enfants, en dotant sa fille, en donnant la plupart de ses terres à son fils, elle s'est trouvée finalement dans le dénuement, parce que au fond, le revenu qu'elle a était encore de 100 ou 2000 fois supérieur à celui d'une nourrice ou à celui d'un instituteur.
De ce qu'on appelait les manouvriers.
Oui, ou même d'un instituteur, si vous voulez. Mais par rapport à son rang, par rapport à ce que nous appellerions aujourd'hui le standing, qu'elle est bien obligée de continuer de mener, eh bien, elle est dans une relative pauvreté. Il y a un moment, pour prendre un exemple caractéristique, il y a un moment où elle est au Rocher, où sa fille voudrait qu'elle ne passe pas l'hiver à Paris, où ses amis lui disent « mais on vous prêtera de l'argent pour que vous puissiez rentrer à Paris », mais elle ne veut pas, parce qu'elle sait que si elle rentre à Paris, elle ne pourra pas avoir de carrosse, elle ne pourra pas avoir de domestique, elle préfère donc être enterrée dans ses rochers que d'être à Paris sans pouvoir y faire figure.
Et que devenait Carnavalet quand elle n'était pas là?
Eh bien, Carnavalet était en grande partie sous-loué. Il faut bien voir que, justement, ses nécessités économiques faisaient que Madame de Sévigné avait le bail principal de Carnavalet, mais qu'une partie du bail était payée par sa fille et son gendre, puisqu'ils avaient leur appartement, qu'une partie était payée par son fils, puisqu'il avait son appartement, et qu'il y avait aussi d'autres personnes, comme l'abbé Bigorre, comme l'abbé Tétu, qui louaient des chambres, et qui, par conséquent, une cousine, mademoiselle de Méry, et qui payaient leur quote-part du bail, et que la seule façon que Mme Sévigné avait de subvenir à ce moment-là à la nécessité de se loger, c'était au fond de faire de l'hôtel de Carnavalet une maison où chacun payait sa quote-part.
Et ce sont des crises au XVIIe siècle dont on a nulle idée, puisque le roi lui-même trinquait dans ces crises-là. On voit le roi fondre sa vaisselle d'or.
C'est ça, hein.
Et au fond, ils étaient moins barbares que nous. Ils n'avaient pas de l'or en barre. Ils avaient de l'or transformé en vaisselle. Et le jour où on avait besoin de cet or, on le faisait fondre.
C'était peut-être tout de même dommage pour les beaux objets d'art qu'on envoyait fondre. Alors même Céline n'avait d'ailleurs pas à ce moment-là de vaisselle d'or à faire fondre, et elle le regrette d'un certain côté. Elle n'avait pas de vaisselle d'or, les inventaires montrent bien qu'elle avait un peu de vaisselle d'argent, mais n'avait pas de vaisselle d'or, elle n'était pas riche, je crois que ça c'est un fait.
Alors autre point que vous éclairez, c'est Madame de Sévigné et la maladie. Bon, si on va à Vichy, il est évident que le souvenir de Madame de Sévigné est partout. Mmh. On ne sait pas de quoi exactement elle souffrait.
De rhumatisme, et on allait soigner des rhumatismes à Vichy. Comme quoi Vichy et l'autre Vichy, à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'on s'en sert beaucoup contre les rhumatismes. Mais enfin, pour Madame de Sévigné, elle y a soigné les rhumatismes qu'elle avait eus au Rocher. Alors le thème de la santé est évidemment un thème capital de la correspondance. En gros, Madame de Sévigné a eu une bonne santé. Et il faut attendre 1675.
Alors, si vous voulez bien, peut-être oui. La journée d'un curiste,
oui,
à travers Madame de Sévigné. Oui. On va à 6 heures à la fontaine, tout le monde s'y trouve, on boit et on fait une fort vilaine mine. Car imaginez-vous que les eaux sont bouillantes et d'un goût de salpêtre fort désagréable. Ça devait être la grande grille qu'elle buvait.
Oui, sûrement.
Ouais. On tourne, on va, on vient, on se promène, on tend la messe, on rend les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire, on rend les eaux?
On va faire pipi.
On va faire pipi.
Voilà, oui.
On parle confidemment de la manière qu'on les rend. Il n'est question que de cela jusqu'à midi. Il faut dire que les gens du XVIIe siècle donnaient force détails sur le fonctionnement de leur corps. On le voit dans les racines.
Oui.
Enfin, on dîne. Alors,
c'est-à-dire on déjeune, temps, n'est-ce pas? Dîner, c'est déjeuner.
C'est ça. Et puis en même temps, il y a la douche, oui. Supplice qui la fait penser au purgatoire. On est toute nue dans un petit lieu sous terre où l'on trouve un tuyau de cette eau chaude qu'une femme vous fait aller où vous voulez. Cet état où l'on conserve à peine une feuille de figuier pour tout habillement est une chose assez humiliante. On se met ensuite dans un lit chaud où l'on sue abondamment, c'est ce qui guérit. Alors, vous ajoutez, la marquise y reste 2 heures pendant lesquelles son médecin lui fait la lecture pour la divertir. Les 8 jours que dure ce traitement, elle s'est arrêtée de boire.
Oui, on boit l'eau et puis après on subit la douche. Je crois qu'au fond, c'est cette espèce de purgation intérieure et cette sudation qui explique que finalement le traitement a eu un certain effet. Elle dit qu'elle ferme presque la main au bout du traitement.
Oui. tout en regrettant que sa fille ne soit pas là.
Ah, ça a été le drame de ce séjour à Vichy.
Alors, cette femme que nous avons vue fort lancée, fort coquette quand même, faisant son pas dans tous les ballets de la cour, la dernière apparition à la cour, c'est Esther. Oui. Et après, adieu à la cour, comme vous l'écrivez.
C'est ça. D'ailleurs, la courbe de la vie, c'est la courbe d'un éloignement. Si en 1671, 1672, au début de la correspondance, elle va encore deux ou trois fois par an à la cour, ensuite, elle n'y va que tous les quatre ou cinq ans. Et finalement, c'est l'invitation de Madame de Maintenon à la représentation d'Esther, qui est pour elle la dernière fois où elle va à la cour et le dernier adieu, au fond, qu'elle y fait.
Et vous écrivez en substance, ou plutôt vous écrivez précisément, son éloignement n'est plus seulement le regret spontané d'un monde vide de la bien-aimée, mais un gage qu'elle lui donne, qu'elle donne à sa fille, de ne pas s'y plaire sans elle, de ne pas mieux l'aimer qu'elle. Peut-être aussi, en raison des mêmes reproches, Mme de Sévigné avait-elle négligé pour sa fille une partie de ses relations. Donc, au fond, c'est la fille qui a raison de la mère, et la fille lointaine rend la mère indifférente.
Un peu plus sauvage, si vous voulez, oui. Dans la mesure où le caractère exclusif de la passion de Mme de Sévigné a eu tendance à se transférer avec le temps en Mme de Grignan, qui devient, elle aussi, à son tour, un peu exclusive de sa mère.
Alors, on a dit beaucoup de choses tout à l'heure sur Madame de Sévigné, la spiritualité et aussi son attrait pour le cartésianisme, mais la dévotion remplit sa vie à partir du moment où il a 55-60 ans, et c'est un grand tournant de sa vie. Ce petit livre finit tout, écrit-elle à sa fille le 26 juin, elle lui conseille de le lire, et ce livre, c'est au Saint-Augustin, c'est tous les textes que lisaient les gens de Port-Royal. C'était un Augustin d'ailleurs ramené à quelques propositions, oui. Puisque les gens du XVIIe siècle ne lisaient pas comme nous des tomes énormes, des œuvres complètes. Mais enfin, si on prend Malebranche, par exemple, il connaît très bien Saint-Augustin, il le connaît, oui, dans un résumé de 150 pages.
Oui. Madame Sévigné connaît effectivement Saint-Augustin dans le traité de la prédestination des justes. Et avec ce traité de la prédestination des justes, on est au cœur du problème du salut. Et au fond, c'est ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et elle est, elle, persuadée que, eh bien, comme le potier, il en choisit, il en rejette, c'est Dieu qui est juge, et l'homme n'a pas à préjuger de ses mérites pour penser qu'il doit ou non être sauvé. C'est un libre choix de Dieu. Et pourtant, elle n'est pas désespérée, car c'est une des leçons de Nicole, une des choses que Nicole lui a apprises dans les essais de morale, c'est qu'il faut tout de même toujours faire comme si. Du moment qu'on a une vie de bon chrétien, du moment que l'on acquiert ce que nous appellerions des mérites, eh bien, Dieu, n'ayant pas l'habitude de sauver les gens par des miracles, il n'a pas non plus l'habitude de les damner par des miracles à l'envers. Et l'exactitude de la vie, la bonne volonté régulière est le signe d'une probabilité de la grâce.
Et il ne peut pas les sauver d'ailleurs malgré eux. Dieu ne peut pas sauver les hommes malgré eux, donc il faut que les hommes donnent a priori leur consentement. Mot qui revient constamment dans la doctrine de Port-Royal, leur consentement à Dieu. Et ce consentement va très loin, puisque c'est le renoncement à toute concupiscence. Concupiscence ayant, au XVIIe siècle, un sens extrêmement large, c'est toute l'avidité, c'est tout l'être personnalisé, tout l'égoïsme humain.
C'est le refus de l'amour propre, de ce qu'on appelle l'amour propre, l'amour de soi. Et il faut surtout être sûr que l'on agit par amour de Dieu, par charité, et non pas par amour de soi. Et il est certain que Madame de Sévigné se sentait pleine de l'amour de soi parce qu'elle aimait la vie, parce qu'elle aimait être belle, nous l'avons dit, parce qu'elle aimait sa fille, parce qu'elle aimait son fils, parce qu'elle aimait le monde, parce qu'elle aimait l'esprit. Ça, c'est de l'amour propre, c'est de l'amour de soi. Et au fond, l'histoire de la vie de Madame de Sévigné, c'est le passage de l'amour de soi à l'amour de Dieu.
Alors, c'est pour ça que vous écrivez en sous-titre « Madame de Sévigné ou la chance d'être femme » Roger Duchesne.
J'attendais un peu cette question autour de ce sous-titre. Alors, bon, c'est pas une thèse, cette chance d'être femme. N'est-ce pas ? J'ai pas écrit « Madame de Sévigné » pour prouver que les femmes avaient bien de la chance d'être des femmes. Non. C'est parce que, quand j'ai terminé le livre et que l'éditeur m'a dit qu'il faudrait un sous-titre, je me suis dit, au fond, ce qui peut-être est le plus original dans Madame de Sévigné, c'est qu'elle a été une femme et que cette femme lui a donné sa chance dans la vie. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, au niveau de l'éducation. Elle a reçu cette éducation libérale qui inquiétait un peu Jeanne de Chantal dont je vous parlais tout à l'heure. Elle n'a pas reçu une instruction conforme à la Ratio Studiorum des Jésuites. Elle a reçu quelque chose qui lui a donné toute liberté de s'épanouir et de s'exprimer. Et au fond, la liberté du style de Madame de Sévigné, c'est une conséquence de cette première chance de n'avoir pas écrit selon des normes régulières. Si elle avait été un homme, elle aurait simplement écrit du Balzac, du Guez de Balzac, ou du Voiture. Eh bien, nous ne disons plus guère Guez de Balzac et Voiture, on lit encore un peu Madame de Sévigné, et de toute façon, sa façon d'écrire est beaucoup plus proche de notre sensibilité que celle d'un Balzac ou d'un Voiture. Alors je crois que ça, c'est une des premières chances de Madame de Sévigné. Une autre chance, eh bien l'essentiel de sa vie, ça a tout de même été cette histoire d'amour entre elle et sa fille. C'est l'essentiel de sa vie, l'essentiel de mon livre. Et bien pour ça, il fallait que ce soit une histoire qui se passe entre deux femmes. Car entre un père et son fils, ou entre une mère et son fils, les rapports seraient différents. Ne serait-ce que le loisir n'est pas le même. La possibilité de fabuler ou de fantasmer autour d'un sentiment n'est pas la même. Et il aurait été tout à fait insensé au XVIIe siècle qu'un père et son fils, ou que Mme Sévigné et Charles s'écrivent deux fois par semaine régulièrement, comme l'ont fait Madame de Sévigné et Madame de Grignan. Cette correspondance n'existe telle qu'elle est que parce que c'était entre deux femmes que s'est passée cette histoire. Et puis aussi, je crois qu'au fond, Madame de Sévigné a eu la chance d'être femme beaucoup plus simplement parce qu'elle a été belle, elle a été célébrée par des poètes, elle a été l'objet de l'amour, elle a été l'objet de la littérature même de son temps, dans la mesure où on l'a célébrée, dans la mesure où des gens comme Ménage ou Mademoiselle de Scudéry ont parlé d'elle, l'ont célébrée dans des poèmes. Où elle a donc eu le plaisir de se sentir une de ces femmes, je ne sais pas s'il faut dire coquette ou galante. Pour reprendre les termes du début de l'émission.
Chance d'être femme, malchance d'être mère, tout au moins avec son fils, parce que vous nous donnez un chapitre qui est tout à fait nouveau sur les rapports de Madame de Sévigné et de son fils. Et ce fils, Charles, au fond, lui en fait voir de toutes les couleurs, un peu comme son mari s'il avait vécu.
Son fils, elle a eu avec elle des rapports un peu moins, beaucoup moins dramatiques qu'avec son... beaucoup moins passionnels qu'avec sa fille, mais tout de même aussi un peu dramatiques. Parce que d'un côté, il l'agace. D'un côté, il la séduit. Il suffit qu'il soit là pour que tous ses griefs tombent. C'est assez étonnant, ceci. De loin, elle a des paroles très dures contre son fils quand elle écrit à sa fille. Mais quand elle raconte que son fils est venu, et il se met à ses genoux, fait le pitre, et alors elle lui pardonne parce qu'il est amusant. Au fond, elle ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'amusant. Madame Sévigné, quelqu'un qui lui ressemble par une certaine façon de prendre la vie avec esprit.
Vous me permettez de vous lire.
Oui, oui.
Elle le voyait, écrivez-vous, Roger Duchesne, toujours avec les mêmes yeux, à la fois indulgent et agacé. Elle appréciait en lui l'abuseur, celui qui avait les petites qualités qui rendent la société agréable. Mais, pensait-elle, on ne pouvait pas faire fond sur lui. Il était trop changeant, insaisissable. Au-dessous de la définition, c'est une citation, avait dit méchamment, dit non. Cela ressemblait au mot de Bussy sur l'inégalité de Madame de Sévigné. Elle s'était faite l'amie de son fils pour le sermonner à sa guise et lui rappelait souvent la nécessité de ne se perdre ni dans cette vie ni dans l'autre, c'est-à-dire de ne pas se ruiner et d'être bon chrétien. Juste milieu, toujours. Et lui était dépensier quant à... finalement, il deviendra chrétien avec l'âge, il va faire un mariage qui va provoquer de la part de Madame de Sévigné des réactions très vives. Elle va se rendre compte que sa bru est une femme terne, pas drôle du tout, d'autant plus qu'elle va vivre, être obligée de vivre avec elle dans l'intimité pendant plusieurs mois. Puis peu à peu, cette femme se rachètera à ses yeux et... Charles de Sévigné sera ravi de ce mariage et va se transformer.
Mais la brue n'avait aucune qualité, sauf une, c'est de prêter une oreille attentive quand Madame de Sévigné parlait de Madame de Grignan et la louait. Alors elle savait très bien mettre Madame de Sévigné sur le sujet de Madame de Grignan et la faire parler. Et c'est comme ça qu'elle a séduit sa belle-mère. Alors pour ce qui est de juste milieu, oui et non. Juste milieu peut-être au bout du compte. Mais c'est toujours, si vous le remarquez, un juste milieu acquis. Ce n'est pas juste milieu donné. C'est un juste milieu qui est le résultat de tensions contradictoires. Et non pas du tout une espèce de banalité bourgeoise.
Chez Molière non plus, c'est un juste milieu, c'est une tension contradictoire.
Oui, de ce point
enfin,
de
l'un et l'autre
non, mais juste milieu, c'est un
ne
mauvaise...
sont pas droits, ils sont redressés.
C'est ça. Juste milieu, c'est une mauvaise odeur, si j'ose dire. Alors il faut bien voir que c'est ici, c'est le résultat de ce conflit, de ce Charles de Sévigné très foufou, et qui va devenir très rangé. Mais ce n'est pas sans histoire et sans drame, même, quelquefois.
À tire-d'aile, nous avons fait le tour de la vie de Madame Sévigné. J'ai voulu surtout insister sur tout ce que vous avez apporté de neuf, en particulier sur la gestion des biens, sur Madame de Sévigné et le peuple, Madame de Sévigné et son fils, sa maladie, la manière dont elle était soignée, Madame de Sévigné telle qu'elle a vécu en Provence ou s'est rêvée en Provence, et puis sur son enfance, sur l'influence de cette grande spirituelle qui était sa grande-tante, Jeanne de Chantal. Eh bien, je pense que... ce livre, au moment de partir en vacances, me paraît tout à fait accessible. Ce n'est pas du tout une biographie ennuyeuse, dissavante. C'est une biographie passionnante, inventive comme la vie et prompte comme le regard de Mme Sévigné et comme son verbe.
Vous venez d'entendre Roger Duchesne pour son livre « Madame de Sévigné ou la chance d'être femme » dans « Les lundis de l'histoire ». Il était l'invité de Pierre Cipriot le 5 juillet 1982 sur France Culture.